que la plupart des gens à qui on a parlé étaient fils ou filles de mineurs, étaient petits-fils ou petites-filles de mineurs, et même ceux qui ne l'étaient pas, en fait, notamment des gens qu'on a rencontrés dans des pubs, même ceux qui ne l'étaient pas, étaient extrêmement fiers de se passer.
La bonne pioche ? Les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes Latitude. Garance Mathieu, vous étiez au Pays de Galles pour vos reportages Latitude, un sujet sur une mine à ciel ouvert et un sujet sur le rugby. Garance, justement, tu as travaillé sur le sujet mine à ciel ouvert, la mine de Fio-Suffrane dans le sud qui pose problème. Et tu as rencontré un couple, Alison et Chris.
Oui, Chris et Alison Austin, c'est un couple qui nous a vraiment marqué parce qu'ils nous ont raconté comment pendant 15 ans ils se sont battus contre cette mine. Voilà, parce que au début, quand elle a ouvert, ils étaient à côté du centre de gravité de la mine, et donc ils avaient toutes les nuisances, ils avaient la poussière, ils pouvaient pas laver leurs fenêtres, enfin, il fallait recommencer sans cesse. Le bruit, 16 heures par jour, de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, donc ils avaient du mal à dormir. Puis après, ils ont eu des enfants, il a fallu les élever dans ces conditions, et ils ont commencé à s'inquiéter des conséquences sanitaires de la mine, et ils ont tenté de trouver des réponses. Ils ont fait appel à un rapporteur des Nations Unies qui est venu pour enquêter, mais qui a eu du mal, enfin qui pouvait pas accéder à la mine. En fait, on lui a pas donné l'autorisation de prendre des échantillons pour faire des tests. Donc voilà, il y a tout ce, et au-delà de ça, c'est un combat qui est allé aussi loin juridiquement. Et c'est ce couple qui a porté l'affaire, parce que au départ ils étaient 500 résidents en fait à cette opposée à la mine.
Et c'est d'abord les gens qui habitaient sur place qui ont commencé à s'opposer.
Oui, parce que
quotidiennement ils voyaient ce qui se passait.
Et même pas pour faire fermer la mine, parce qu'ils se sont dit que c'était impossible, mais juste pour que la mine mette en place certaines réglementations, arrêter de faire du bruit à des heures décentes, essayer de limiter au maximum les poussières et ce genre de choses. Et en fait, la mine, donc ça, c'est le couple qui nous explique qu'au départ, il y a 500 personnes qui les poursuivent en justice, et la mine menace de poursuivre individuellement chaque personne les poursuit en justice, et pour leur faire peur. Et en fait, les gens n'ont pas les moyens financiers de prendre ce risque, et donc ils se rétractent, et il n'y a plus que Alison et Chris pour porter ce combat devant la justice européenne même. Et on arrive en 2015, et ils sont prêts de gagner l'affaire, mais c'est le Brexit. Et du coup, en fait, plus personne au niveau européen ne se soucie de leur cas, et ça tombe à l'eau. Et voilà, donc ils sont un petit peu bloqués maintenant juridiquement, parce que...
Et ils étaient comment, là, quand vous les avez rencontrés il y a quelques jours? Ils étaient lassés, en colère encore, ou...
Mais c'est bizarre, parce que ils expliquent aussi que le centre de gravité de la mine a bougé, donc c'est plus eux qui ont les principales nuisances. C'est un village un peu plus au nord de la ville qui s'appelle Dolé, mais ils veulent quand même se battre pour les autres. Ils sont toujours très attachés à cette cause, mais il y a toujours ce... Par exemple, Alison, elle raconte, quand je lui demande comment elle a pris la nouvelle de l'extension, parce que la mine, en fait, l'histoire, c'est que la mine devait fermer le 6 septembre 2022, et elle a été étendue pour 9 mois, et peut-être même pour 3 ans. Et en fait, quand elle a pris la nouvelle, elle dit qu'elle a été malade, alors que finalement, les nuisances de la mine, elle les a plus
au quotidien. Elle les vit plus quotidiennement, mais...
Ouais. Ouais.
Okay. J'imagine que c'est pas un sujet où les gens ont envie de parler. Là, comme tu expliquais, bon, vous avez rencontré, c'était votre contact sur place, c'était les deux personnes qui ont vraiment, c'est le cœur de ce combat, donc eux avaient peut-être plus envie d'en parler. Est-ce que vous avez quand même réussi à trouver des gens, peut-être du village concerné maintenant, qui ont voulu parler, ou est-ce que vous êtes retrouvé face à un silence?
Bah, c'était très compliqué, notamment du point de vue institutionnel. La mine ne voulait pas nous les laisser rentrer. Après, on a fini par avoir le manager de la mine qui a bien voulu répondre à nos questions, mais il fallait le brosser un peu dans le sens du poil pour obtenir des réponses. Et même ce rapporteur de l'ONU dont je parlais tout à l'heure, il n'a pas eu accès à la mine, et il n'a pas eu accès à quelqu'un qui lui a expliqué la situation. Et il raconte que ce qui, lui, l'a frappé à l'époque, c'est cette vraie opacité. Et oui, pareil, au niveau des autorités locales, impossible d'avoir un conseiller sur place. Donc il faut insister par mail, par téléphone, pour finalement avoir des réponses. Et c'est des réponses qui sont très générales, en fait.
Oui.
Donc voilà, et les habitants dans ce village, justement plus au nord, on s'y est rendu et on a presque eu l'impression d'une omerta parce qu'on leur parlait de la mine qui est vraiment 40 mètres derrière leur maison, donc juste à côté. Ouais. On dit, qu'est-ce que vous pensez de la mine? Et ils nous disent, de quelle mine vous parlez?
Enfin, alors je veux dire, juste là,
elle est à 40 mètres de chez vous et on voit la poussière sur les murs de la maison et oui, ils ne veulent pas parler. Et enfin voilà, donc une vraie difficulté sur les infos, enfin comment trouver les informations, au contraire des garçons, parce qu'on était au Pays de Galles avec Mathieu et Orlando, et eux, les gens étaient beaucoup plus prompts à leur parler, parce que c'est un sujet qui est quand même plus sympa, le rugby.
Le rugby, ouais.
Et donc on a eu la chance de rencontrer David, qui est un ancien mineur et qui a toujours la poigne du rugbyman qu'il a été. Voilà, Mathieu va vous en parler plus longtemps.
Eh bien oui, moi je vais vous parler de David. Donc David, comme le disait Garance, effectivement ancien mineur, ancien rugbyman qui jouait au rugby dans les années 60-70. Et en fait, on l'a rencontré, David, alors qu'on voyageait dans le village de Sengenid, qui est un tout petit village, ancien village minier de 6000 habitants au cœur du sud donc, du Pays de Galles. Et en fait, David, donc, il tient avec ses amis retraités un petit musée dans la ville de Sengenid. Et un musée qui est consacré à une catastrophe, une très triste catastrophe qui a eu lieu en 1913 à Sengenid. Et c'est une explosion qui avait tué plus de 480 mineurs dans la ville. Donc c'est encore la catastrophe la plus grave en fait, de l'histoire du Royaume-Uni, la catastrophe minière la plus grave de l'histoire du Royaume-Uni. Et donc en fait, David, après avoir parlé avec lui pendant 1h30 de son passé de mineur et de son passé de joueur de rugby, il a tenu avec ses amis à nous emmener justement... sur le mémorial qui est là pour justement se remémorer et se souvenir de tous ces mineurs décédés dans cette catastrophe. Et c'est même un mémorial national en fait qui se souvient de toutes les catastrophes minières qui ont eu lieu dans tout le Royaume-Uni. Donc c'était assez beau en fait. À la fin de l'entretien, ils nous ont proposé, ils étaient 4 ou 5, de nous emmener donc en voiture. Donc notre petit convoi est parti sur le mémorial et arrivé là-bas, donc il pleuvait à torrents. Ils ont quand même tous voulu sortir et se mettre devant le mémorial et pendant 20 minutes, ils nous ont expliqué un petit peu l'histoire du mémorial. Ils ont ensuite voulu nous prendre en photo devant parce que voilà, c'était un moment qui était assez émouvant pour eux parce qu'il y avait une sorte, je crois, de mélange de fierté d'avoir ce mémorial dans leur ville et aussi d'émotion parce que c'est quand même quelque chose qui les rassemble, le passé mineur.
Et parce que toi, justement, donc là, David dont tu parles était ancien mineur, était ancien rugbyman également. C'est le cœur de ton sujet. Tu as travaillé sur l'héritage minier dans le rugby. Quelle place, justement, elle a
Justement, pour revenir rapidement sur David, après être allé à ce mémorial, il nous a proposé, cette fois-ci tout seul, de nous emmener sur le terrain de rugby de son enfance et là où il a joué lorsqu'il était mineur. Donc, très beau moment. À nouveau, on s'arrête et pendant 15-20 minutes, il nous parle de ce qui se passe. Ce terrain construit sur les déchets de la mine, le seul endroit plat de la région, puisque c'est une région qui est complètement vallonnée. Et voilà, pendant 15-20 minutes, il nous explique ça. Et à nouveau, il est très ému. Il est très, très ému parce que voilà, cet héritage minier, c'est quelque chose qui reste chez les anciennes générations, mais aussi chez les nouvelles. Et justement, les communautés, maintenant, elles se réunissent moins autour de communautés de mineurs, puisque les mines, ou en tout cas la plupart des mines, ont fermé, mais autour de nouvelles choses, et le rugby peut participer à ça.
D'accord, donc le rugby a permis de se rassembler là où les mines ne le font plus trop, puisque les mines, il y en a moins. Donc maintenant, c'est dans le rugby que les gens ont créé des communautés.
Bah exactement, et j'ai peut-être une petite anecdote ou voilà, une rencontre qu'on a fait aussi à ce sujet-là, et cette fois-ci, c'était à Cardiff. Donc on est rentré un peu par hasard dans le stade de l'équipe professionnelle de rugby de Cardiff, les Cardiff Blues, le stade qui s'appelle l'Arms Park. Et en fait, on y a rencontré la directrice de l'association des Cardiff Blues, donc qui gère la communauté des Cardiff Blues. Elle a beaucoup de fois utilisé ce mot « communauté ». Et en fait, avant de la rencontrer, on ne savait pas si elle allait vraiment pouvoir nous parler de ça, on ne savait pas quelles étaient ses connaissances. Et en fait, quand elle s'est présentée, elle a dit « Je m'appelle Nadine Griffiths, je suis fille de mineur, je suis petite fille de mineur ». Et ensuite, elle nous a dit « J'ai créé l'équipe féminine des Cardiff Blues et j'ai 44 sélections en équipe nationale ». Donc tout de suite, ça plante le personnage. Et après ça, pendant 1h30, elle nous a parlé justement effectivement de cet héritage minier un petit peu partout dans le pays, puisque bon, Cardiff, ce n'est pas une ville de mine, Cardiff, c'est une ville de dock. Justement, qui a accueilli le charbon à l'époque. Mais l'idée est la même. Et en fait, elle nous a expliqué que maintenant, dans la plupart des clubs de rugby, voilà, les associations, elles font énormément d'actions qui vont au-delà du rugby et qui peuvent forger et continuer à souder cette communauté qui, dans tout ça, va quand même essayer de se souvenir le mieux possible de son passé mineur, parce que c'est quelque chose dont ils sont tous extrêmement fiers partout, en tout cas dans le sud du pays. Mmh. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment rencontré avec Nadine qui nous a expliqué... Et qui, voilà, dès qu'elle parlait du passé mineur, il y avait quelque chose, encore une fierté et une émotion dans sa voix. Quoi.
Puis en plus, elle représente bien ce que tu disais, ce passé minier maintenant dans la culture rugby, puisqu'elle, ses parents et ses grands-parents étaient des mineurs. Elle, maintenant, joue au rugby sans oublier ce passé mineur. Donc c'est un petit peu...
Ouais. Et en fait, ça a été le cas énormément. C'est-à-dire que la plupart des gens à qui on a parlé étaient fils ou filles de mineurs, étaient petits-fils ou petites-filles de mineurs. Et même ceux qui ne l'étaient pas, en fait, notamment des gens qu'on a rencontrés dans des pubs, même ceux qui ne l'étaient pas, étaient extrêmement fiers de ce passé parce que c'est quelque chose qui est ancré en visiblement tous les Gallois, en tout cas ceux qu'on a rencontrés dans le sud, c'est quelque chose qui a l'air vraiment extrêmement ancré.
D'accord. Le reportage donc, sur le rugby, toi, l'héritage minier dans le rugby, donc il est à retrouver dans le magazine Latitude. Garance, le reportage sur la mine de Fiosufran, également dans le magazine. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Latitude 2023, Instagram, Twitter et TikTok, et sur notre site internet. Merci d'être passé dans La Bonne Pioche.
Salut.
Merci. Salut.
La Bonne Pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes Latitude.